Mon mandat ici, préférer la guerre. Ça vit pas perqué, ça vit pas percal.
Bonjour, ici c'est Michel Bonnet de Cordes, et aujourd'hui nous allons dans cette émission essayer de comprendre l'énorme choc qu'a représenté la guerre de 14 pour les habitants de Cordes et principalement les femmes, puisque ce sont elles qui sont restées sur Cordes pendant que les hommes étaient mobilisés.
La por al ventre, arroba sa ben, pinsun ou l'autre, aïe si cré barren.
Pas pour découvrir la guerre de 14-18, nous la connaissons et nous avons lu beaucoup de livres là-dessus, etc. Mais pour nous laisser imprégner par ce qui s'est passé pendant la guerre, mais ici, en pays cordais, ou en pays, dans le Tarn, disons, dans notre midi de la France, en milieu rural. Parce que ça a été un événement absolument fantastique, pas seulement pour la France au niveau national et pour les soldats qui sont allés là-bas, mais pour ceux qui vivaient ici. Je pense que la meilleure image qu'on peut avoir, c'est de penser au Big Bang qui a lancé la création du cosmos. Je considère que la guerre de 14-18, c'est un peu la même chose. Et il faut passer beaucoup de temps à y réfléchir, à se laisser aller, à se souvenir, si on peut dire, pour découvrir à quel point elle nous a influencés et elle continue de nous influencer. Pourquoi ? Parce qu'elle commence une nouvelle époque dans l'histoire, pas seulement de la France, mais pas seulement de l'Europe, mais de l'humanité. En effet, elle a une caractéristique, on y pense peut-être pas assez souvent, bien sûr, mais c'est qu'on l'a appelée une guerre totale. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a une guerre totale. Et cette caractéristique fait qu'elle a touché tout le reste de l'histoire, elle touche depuis 100 ans tout le reste de notre histoire. Guerre totale, comment ? Parce que d'abord, on voulait la destruction totale de l'ennemi. Et imaginez que c'est le gouvernement, par la voix de ses autorités, enfin de son ministre, disait tout à fait officiellement: nous ne voulons pas la paix, mais la victoire. Il s'agissait vraiment de détruire l'ennemi. D'autre part, elle est totale parce qu'elle concerne la totalité de la planète. Déjà, pendant la guerre de 14, on a vu venir ici, sur le sol français, pour se battre des Asiatiques, des Africains, des Américains, enfin, c'est tous les continents, des Australiens, n'en parlons pas. Hein. Donc, ce sont tous les continents qui ont été engagés dans cette guerre, et pas seulement les hommes au combat, parce que la nourriture, etc. Enfin, ça a été une guerre qui a touché toute la planète, et une guerre qui a eu tendance, et qui voulait, dévorer toutes les ressources possibles. On s'est mis à fabriquer à des prix exorbitants, des munitions, des armes, etc. Et on a ponctionné un peu tous nos colonies, bien sûr, de l'époque, mais aussi un peu tous les pays qui étaient sur la planète pour rassembler des bœufs par ici, des chevaux par là, du fourrage un peu plus loin, ouais, des habits, etc., etc. Et puis, il y a un dernier aspect qui est tout à fait nouveau, et qui est un véritable Big Bang dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'à partir de 14, on ne distingue plus les soldats et les civils. Il y a la totalité de la population qui est touchée comme ça, et ça nous concerne encore aujourd'hui. Cette guerre particulière en tant que guerre totale, Nous la retrouvons encore aujourd'hui avec Hiroshima, Nagasaki, la bombe atomique qui veut détruire absolument toute une population. Et on se retrouve en ce moment même avec le risque de destruction nucléaire puisque la course à l'armement continue. On n'arrive pas à l'arrêter. D'autre part, qu'elle soit planétaire, il n'y a pas besoin d'explication. La moindre guerre aujourd'hui touche n'importe quel pays de la planète, surtout avec la mondialisation, avec Internet, etc. Les ressources, c'est la même chose, avec cette différence, cette évolution, c'est qu'on est passé du cheval au char d'assaut, on est passé des êtres vivants à la mécanique. Et enfin, la distinction soldat-civil, ben nous la vivons en ce moment même, avec tout le poids des réfugiés de tous les pays qui sont en guerre, et pour nous, plus particulièrement, des pays du Moyen-Orient, les réfugiés, on veut les appeler les migrants, mais enfin c'est toujours des réfugiés, ils sont là à notre porte. Donc vous voyez, nous sommes véritablement dans la foulée de 14-18. Connaître 14-18, c'est comme si on voulait essayer de connaître le Big Bang qui a donné naissance au cosmos. Il y a 36 façons d'approcher cela. Les scientifiques, les historiens, toutes sortes de possibilités. Mais pour nous, ici, nous allons prendre une optique tout à fait particulière pendant cette année. C'est que, au lieu de regarder d'abord ce qui s'est passé dans les tranchées, dans les états-majors, etc., c'est-à-dire sur le front, nous allons regarder ce qui s'est passé ici, chez nous, en pays cordé. Pays cordé, pays des environs, le canton, etc. Et c'est tout à fait nouveau comme approche. Ça signifie que nous allons aller à petits pas, sans faire des explications théoriques, des analyses de la politique nationale ou internationale, sans aller chercher pour faire plaisir à ceux qui aiment le voyeurisme, on va pas aller chercher des images, des histoires d'horreur, comme on en trouve souvent quand il s'agit de la guerre. Non, nous allons au contraire, tout près de la population, tout près des gens, des hommes et des femmes qui étaient comme nous, qui sont comme nous, vivant ici, à Cordes, et voir comment, eux, ils ont vécu cette guerre de 14-18. Parce qu'il y a des chances qu'on puisse se retrouver avec eux facilement. On va se laisser imprégner, se mettre les uns à côté des autres, et cela pendant assez longtemps. On a prévu déjà une quarantaine d'émissions, c'est énorme si on peut dire, c'est-à-dire semaine après semaine, on va se mettre en quelque sorte en communion, plus qu'en communication je dirais, en communion avec les gens qui ont vécu ici. Et pour cela, je vous propose de nous mettre dans l'ambiance de ce moment-là, juste penser à ce qui s'est passé ici à Cordes et dans les environs le 2 août 1914, dans l'après-midi. Tout d'un coup, les gens étaient là, les uns à faire la moisson, les autres faire les gerbes, d'autres à ranger leurs ateliers, etc. Le tocsin sonne et on se demande ce qui arrive. On se regarde, on essaie de trouver des renseignements, on va vers le centre, vers le village, etc. On voit les gendarmes qui apportent des affiches, on regarde les affiches et on s'aperçoit que c'est la guerre, qu'il y a la mobilisation générale et que tous les hommes doivent partir. Et les hommes savent de quoi il s'agit puisqu'ils ont un livret militaire avec deux feuilles qui leur disent très clairement, à partir du moment où vous voyez mobilisation générale, voici ce que vous devez faire. Préparez votre sac de telle façon, allez prendre le train par exemple ici à Vendrac, allez à Albi ou ailleurs. Voilà. Et là-dessus, c'est un choc pour toute la population, bien sûr, parce que les mobilisés, c'est un tiers de la population de Corde, à peu près autant dans les différents villages, et le tiers le plus important, en quelque sorte, parce que c'était les hommes les plus forts, c'était les jeunes, c'était ceux qui faisaient tourner les machines, les exploitations, etc. Donc on a l'impression que tout se vide et qu'il ne reste plus que les femmes. Les femmes, c'est-à-dire les épouses, mais aussi les mères, les filles démobilisées, et qui sont toutes intimement liées avec ces hommes, pas simplement parce que on les imagine obéissantes et servantes avec un peu de machisme sur les bords. On imagine ça souvent. Non, c'est une union intime. Et je vous propose justement d'écouter une femme nous dire pour elle qu'est-ce que ça signifiait cette guerre de 14-18. Écoutons la femme du soldat inconnu.
Mourir, la tête dans le vent, comme on part un sourire entre les dents. Les femmes ça part pas, ça meurt à petit feu. Une femme ça reste et ça pleure pour deux. Il fallait qu'il s'en aille, il est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon amour inconnu. Des honneurs à la noix, et quand la mort s'est tue, il a reçu sa croix, mais moi je n'ai rien eu. Vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu.
Ils sont là chaque année, à son bon souvenir. Moi, bande d'un désolé, je n'ai rien vu venir. Pourtant, mort aussi, même quand la vie dure. On meurt même au milieu des pots des confitures. Je l'ai faite ma guerre, mais entre quatre murs. C'était une autre guerre avec une autre armure. Je l'ai faite traverser des landaux à toute heure. Y a pas que les fusils qui déchirent le cœur. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu.
La vie que de la prendre. Une guerre où la mort ne veut jamais se rendre. Moi aussi je l'ai faite, et même en souriant. Et c'était pas la fête, tout le temps.
Il fallait qu'il s'en aille, il est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon soldat inconnu.
Des honneurs à la noix, et quand la mort m'a prise, je n'ai eu que l'honneur de la femme soumise. J'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam.
Vous voyez, le mot le plus important de ce témoignage de cette femme, de ce chant, il est parti. On est commencé par là. Elle n'a que ça en tête, elle n'a que ça dans le cœur. Toutes les femmes de Corde, toutes les femmes de la région ici, elles ne pensaient qu'à une chose, il est parti. Et immédiatement, on se demande, il est parti pour combien de temps? Il est parti pour 8 jours, il est parti pour 3 semaines, il est parti pour 2 ou 3 mois. Tout le monde pensait que la guerre, c'était quelque chose qui n'allait pas durer. Donc on disait, bon, on verra bien, les vendanges, il sera revenu. À Noël, bien sûr qu'il sera là. C'est pas des années qu'on va passer sans nos hommes. Mais cette question, elle va rester de façon lancinante parce que ils ne reviennent pas. Et ils ne disent pas qu'ils vont revenir. Ils ne savent pas quand ils vont revenir. Au fur et à mesure qu'elles reçoivent du courrier et des nouvelles du front, la question, mais il est parti jusqu'à quand, va devenir véritablement lancinante. On va vivre avec ça sans arrêt. Or, dès le mois d'août, il y a des hommes de corde qui meurent dans les tranchées. Pas dans les tranchées, mais au front. Et ça va continuer comme ça. Pendant toute la durée de la guerre, c'est très rare qu'il y ait une semaine sans un mort de la région ici. C'est-à-dire un homme qu'on connaît, qui est le mari, qui est le fils, le copain, etc. Des fois le fiancé, voilà. Et donc, voilà une question qui, on en reparlera, mais ça va devenir véritablement une angoisse. Et cette question de « il est parti jusqu'à quand ?», elle est cruciale pour la femme, pour toutes les femmes de cette époque-là, parce qu'elles ne sont rien, elles n'ont pas de pouvoir, elles n'ont pas le droit d'héritage. S'il ne revient pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais tout va dépendre de notre homme, du père, du beau-père, on n'en sait rien. Elles n'ont pas de pouvoir politique, elles ne peuvent pas être élues, elles ne peuvent pas élire, elles n'ont pas droit à la vie de la commune au sens où on peut prendre des décisions. Et donc, ça va être ce lien qu'elles vivent au plus profond d'elles-mêmes, dans leur cœur, dans leur être même, un peu comme quand une femme est enceinte, les gens à l'extérieur sentent très peu ce qui se passe en elle, évidemment, tandis qu'elle vit en union étroite avec le bébé qui viendra plus tard, dans des mois et des mois peut-être. Voilà. Et ça va être la même chose. Elle va porter, chaque femme cordaise va porter en elle ce soldat qui est sur le front. Et ça, ce lien avec le soldat, voilà, c'est une sorte de fil rouge que nous allons essayer de dérouler tout au long de l'année pour le repérer présent dans tous les éléments qui font la vie d'une société, la vie d'une communauté comme la nôtre, etc. C'est important d'avoir ce lien d'un événement à un autre, d'une situation à une autre, parce que pendant la guerre, les gens ont changé ici. On n'est pas parti pour 8 jours ou 15 jours. Et les hommes sont partis et ils ne sont revenus que 5-6 ans après. Donc, les hommes, les femmes, tous ceux qui sont restés ici ont changé au cours de la guerre. Et d'autre part, notre société, à nous aussi, depuis 100 ans, a changé. Il suffit de jeter un coup d'œil un tout petit peu sur quelques livres ou quelques articles de journaux pour voir l'énorme différence qu'il y a entre ce qu'on disait en 1920, 1930, 1940 et puis ce qu'on dit aujourd'hui, à commencer par les historiens, par les professionnels. Et qu'est-ce que ça va vouloir dire? Eh bien, il y a deux signes de cette présence disons, de la pensée et de la volonté d'être en lien avec le soldat qui est parti là-bas. La première chose, c'est que chacun se dit, il faut tenir le coup. Maintenir corde, quoi qu'il arrive. Pas seulement moi tenir la forme pour recevoir celui qui va revenir plus tard quand il reviendra, mais non, toute la région, tout ce qui fait cette vie de corde, il faut tenir le coup. Donc, ce n'est pas le moment de perdre son temps à pleurer, de se lamenter, etc. On fait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que, même si on ne leur avait pas dit, les femmes, elles auraient continué de suite, le jour même, à faire la cuisine, à aller au marché, à s'occuper du jardin, à s'occuper des animaux, etc., etc. C'est un effort de toute la population où il faut tenir le coup pour maintenir corde en vie.
Tu n'en reviendras pas, toi, qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Que l'obus a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. On part, Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri.
Et maintenir Corde en vie, c'est évidemment d'abord le travail des femmes. Bien sûr, il y a des hommes qui sont restés. Tous les hommes ne sont pas partis au front. Il y a eu ceux qui ont été exemptés pour diverses raisons, soit pour la santé qui n'allait pas bien, la maladie, soit qu'ils étaient indispensables à la marche d'une communauté, à la marche du village, à la marche d'une entreprise, à la marche d'une propriété rurale. Mais essentiellement, c'est un travail des femmes. Et donc, elles vont avoir à inventer la prise de responsabilité que les hommes assumaient jusque-là et que là, elles vont être obligées de prendre, elles, sur elles, pour passer du gerbier à la batteuse. Et on a vu des gerbes qui n'étaient pas encore, disons, passées à la batteuse aux alentours de Noël. Et ça fait quand même du temps par rapport à la moisson du mois d'août. Ça, faut le gérer. Et les vendanges sont arrivées. Ça a été exactement pareil. Et il a fallu se mettre à remplacer le pressoir par les pieds. On pressait le raisin en montant dans les comportes. Et on utilise la moindre petite chose qu'on a, on va s'en servir pour tenir. Voilà, une vieille femme de corde, là, qui avait un brin de jardin en descendant sur le rosse. Elle y faisait quelques légumes. Et bien, tous les jours, elle prenait sa brouette, elle mettait quelques carottes, quelques choux, un chou peut-être, etc. Et puis, elle passait dans les maisons en disant « Vous n'avez pas besoin de quelque chose aujourd'hui ?» Et elle vendait ce qu'elle pouvait, là. Et habituellement, elle vendait ça. C'était ce que ça lui rapportait pour la journée. Et tout le monde a été comme ça. Tout le monde a, véritablement, on a utilisé tout le temps pour ça. Quand les enfants sortaient de l'école, c'était pas le moment de jouer. Allez hop, tu vas dans le champ à côté, tu ramasses de l'herbe pour les lapins. Et ensuite, tu vas faire ceci et tu vas faire cela. Donc, toutes les forces ont été utilisées sous la direction, des femmes. Il y a une deuxième réaction dans nos populations. C'est la volonté de maintenir une relation visible, une relation matérielle, une relation très profonde avec ceux qui sont partis sur le front. Et ça s'est marqué. Personne ne l'avait prévu, ça a surpris tout le monde, etc. Par une masse de courriers qui s'est mis à circuler. Et ce sont des lettres, des millions et des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions. On dépasse le milliard de lettres qui sont parties dans un sens ou dans l'autre. Des lettres, des cartes postales, toutes sortes de choses. Où les femmes, surtout les femmes, maintenait le lien avec celui qui était parti. On n'allait pas lui expliquer ou on n'allait pas lui demander comment on fait pour améliorer le degré d'alcool du raisin, du vin, etc. Non, c'est d'abord, je suis avec toi, tu es avec moi. Et nous allons nous retrouver et tu vas revenir. Tu es parti, mais je t'attends. Donc, une relation très, très profonde et une relation très matérielle, en particulier avec les colis. Le gouvernement, très rapidement, a compris que les femmes avaient besoin, en quelque sorte, de materner les hommes qui étaient partis. Toute femme se retrouve plus ou moins mère d'un homme, quoi, vous voyez. Et être mère, c'est s'occuper. Il fait froid, je vais t'envoyer des chaussettes. Tu n'as pas amené de cache-nez au mois d'août, mais il t'en faut un au mois de novembre. Donc des colis avec ça. Et puis elles savent ce que le mari ou ce que le fils ou le copain aime. C'est-à-dire, je vais t'envoyer un saucisson qu'on vient de terminer. Ah, c'est la grand-mère une telle qui a fait du pâté. Je t'en envoie une boîte. Ou bien l'oncle un tel, il a sorti une eau de vie qui est pas mauvaise du tout. Je crois que ça te fera du bien de goûter ça. Et donc, elles vont envoyer des tas de colis. Et Dieu sait si les hommes vont avoir besoin de ces colis et demander sans arrêt ces colis, ceux qui sont sur le front, et bien sûr les milliers d'hommes qui ont été faits prisonniers, où là, des fois, ils n'avaient que ce qu'ils recevaient comme nourriture en dehors d'un pain dur, rassis, etc. Je voudrais ajouter une chose à laquelle on pense assez peu, c'est que ces femmes, quand elles parlaient entre elles et quand elles parlaient avec leurs hommes, quand en famille, hommes, femmes, avec les enfants, etc., elles ne parlaient pas en français, elles parlaient en occitan. C'était capital. Et lorsque ces femmes veulent dire quelque chose à leur mari, elles doivent le dire en occitan. Et pourtant, il faut qu'elles écrivent en français. À la fois parce que c'est la censure qui est là et que la censure n'admet pas de pas savoir ce qu'il y a dans les lettres, mais aussi parce que c'est une, en quelque sorte, ça donne du poids à la lettre. En plus, on la fait souvent écrire par une amie qui connaît un peu mieux le français ou qui a l'habitude d'écrire. On a eu plus facilement l'habitude d'écrire en français que d'écrire en occitan. En occitan, on le parle plutôt qu'on ne l'écrit, je parle à l'époque. Donc, elle pense en occitan. Mais imaginez toute la gymnastique à l'intérieur de leur tête et de leur cœur que signifie le fait de passer de l'occitan au français et de l'occitan que l'on parle avec l'homme avec qui on est. Imaginons aujourd'hui, tenez, même simplement, je suis prêt à parier que peut-être parmi un certain nombre d'auditeurs, si je disais hier, il y a le Peyarot qui a bien voulu m'acheter trois pots de lapin, le mot Peyarot, il y en a pas beaucoup peut-être qui savent exactement tout ce que ça signifie et puis qui ont une image de cet homme, comment il est, etc. Moi, je sais, quand j'étais gosse, il me faisait peur. Et on préférait ne pas avoir affaire à lui. Pourquoi ? Non, c'était quelqu'un de très gentil, mais voilà. Donc, pensez à ça, et il faudra revenir régulièrement sur cette présence de l'Occitan. Si on oublie qu'on a passé la guerre de 14 avec, en jonglant en quelque sorte, entre le français et l'occitan. Et sur le front, c'était pareil aussi. On a des lettres de soldats qui ont été écrites en occitan, et on sait qu'on a eu des groupes de soldats qui se retrouvaient entre eux. Ils avaient de la chance de se retrouver dans une même tranchée, parler en occitan. Il y a même, on a des témoignages, j'ai rencontré des témoignages de français interpellés d'une tranchée à l'autre par des Allemands parlant occitan, parce qu'ils avaient vécu dans le sud de la France, ils avaient appris ça. Donc voilà, et ça, ça va durer pendant 5 ans. Vous voyez le poids que ça va représenter. Voilà pour aujourd'hui. Nous allons, au fil des semaines, continuer à aller un peu plus en profondeur avec différents points de vue. Et je vous dis donc à la prochaine fois. Au revoir.
Hey, parce que bintans, et même beau mourir. Hey, parce que bintans, et même beau mourir. Adieu promesso, adieu ma pulino, che mi spero che non sono in pao mai. Chiamai, te me darei ad agleso, ma sarà per io la mia non lunga mai. Quand l'autre nouvelle se tournera les bas, bouscadra béoré, bouscadra canta, sans jamais oublier à quel mazel, per tourna pas fort, qui t'entend cruel. Parce que bintans, et même beau mourir. Et parce que bintans, et même beau mourir.